Bien, bonjour à tous. Je pense que vous devinez que je suis Céline Piquet. Nous vous remercions d'être présents et nous allons donc débuter cette journée par une première communication intitulée Problématiques, méthodologie et premiers résultats. Une première partie vous sera présentée, servira à vous présenter rapidement la question de recherche et puis un petit peu plus longuement la méthodologie retenue pour ce dispositif. Et dans une dernière partie, quelques premiers résultats. Alors, pour ce qui nous concerne, Roland et moi, des résultats très généraux et puis qui sont une invitation aux communications suivantes. Notre équipe de recherche s'est donc réunie, constituée, il y a plus de 3 ans maintenant, autour du projet intitulé Étude de l'influence des pratiques d'enseignement, de la lecture et de l'écriture sur les premiers apprentissages. Cette formulation nous a orientés autour de plusieurs champs d'investigation. Le premier, bien sûr, est de décrire les pratiques enseignantes, ce qui n'est pas une mince affaire, vous le verrez. Dans un second temps, évaluer ce que savent les élèves au début et à la fin de l'année, en d'autres termes, ce qu'ils apprennent tout au long du cours préparatoire, puisque c'est le niveau que nous avons retenu pour parler des premiers apprentissages. Enfin, par la mise en relation de ces deux premiers champs d'investigation, l'exercice consiste à rechercher les facteurs explicatifs des différences de performance entre élèves à la fin du cours préparatoire. Donc, c'est sur ce dernier point que porte la question du jour, et donc toutes les communications, même si toutes les interventions prendront soin, évidemment, de décrire les pratiques des enseignants de notre échantillon. Alors, pour répondre à cette question des facteurs explicatifs des différences de performance, nous pouvons schématiser l'organisation de notre recherche comme suit. Alors attention, je vais y aller progressivement. Nous nous interrogeons donc sur les performances des élèves en fin d'année. Alors, nous avons évalué, on y reviendra, hein, ces performances en code, en compréhension et en écriture. Et les travaux antérieurs de recherche nous indiquent que ces performances en fin d'année sont liées dans un premier temps à ce qu'on appelle les caractéristiques sociodémographiques des élèves, alors l'âge, le sexe, le milieu social, et à leur performance en début d'année. Toute une série de travaux nous indique également que le contexte de scolarisation, donc ce qu'on appelle le niveau 2, influence donc ses performances en primaire et en particulier le contexte de la classe. Alors, est-ce que j'ai... Je vais l'afficher en entier. Voilà. Donc l'ovale vert représente tout ce qui se passe dans la classe, le contexte classe, et qui représente donc ce qu'on appelle l'effet classe. Dans cet effet classe, on distingue donc ce qui relève des, disons, caractéristiques morphologiques des classes, alors le nombre d'élèves par classe, son organisation en cours double, en cours multiple, en cours simple, et l'effet maître, donc c'est ce qui est en bleu, qui se décompose par les caractéristiques des enseignants, telles que l'ancienneté. On peut imaginer que l'ancienneté d'un enseignant, son expérience, a des effets sur les performances des élèves. Donc, qui se décompose par les caractéristiques des enseignants et les pratiques de classe que l'on peut connaître, soit en les observant, soit à partir de déclarations. Nous y reviendrons un peu plus précisément tout à l'heure. Alors, ce schéma mérite quelques commentaires supplémentaires. Tout d'abord, la présence du bloc performance initiale, alors pour vous à gauche, nous indique que toutes nos analyses vont être conduites en termes de ce qu'on appelle valeur ajoutée, puisque en fait, les pratiques des enseignants ne peuvent avoir des effets sur les élèves qu'au cours de l'année où les élèves travaillent avec cet enseignant. Alors, éventuellement, un enseignant, enfin, ces pratiques peuvent avoir de l'effet après. Donc, Roland vous a parlé des CE, de ce qui va se passer en CE1. Donc, l'influence d'un enseignant peut s'observer sur ce qui se passe une fois que l'élève a quitté cet enseignant l'année suivante, mais en tout cas, l'enseignant ne peut pas influencer évidemment ce qui se passe avant. Donc, nous raisonnons bien sur ce qu'apprennent les élèves au cours d'une année et pas uniquement ce qu'ils savent à la fin du cours préparatoire. Et donc, pour ce faire, nous avons besoin de borner temporellement l'analyse avec un test initial et un test final. D'autre part, ce schéma nous indique, vous permet de comprendre que ce qui nous intéresse, ce sont les pratiques ordinaires, quotidiennes des classes. Et notre paradigme est ce qu'on appelle un paradigme écologique, qui, contrairement au paradigme expérimental, ne transforme pas les pratiques. Nous ne touchons pas aux pratiques, nous avons été très clairs avec les enseignants, nous leur avons bien dit que surtout, quand nous étions présents dans les classes, surtout il ne fallait rien modifier dans la mesure du possible. Ce paradigme écologique, donc non transformé, implique plusieurs contraintes. Je vais vous en présenter seulement trois. La première, c'est de s'assurer que les pratiques des enseignants que nous allons observer affichent une certaine variété. Parce qu'en fait, nous avons besoin simplement de comparer les pratiques entre elles. Et si tous les enseignants font la même chose, il n'y a pas de comparaison possible. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Il fallait que, dans la construction de notre échantillon, on s'organise de telle sorte qu'on ait une probabilité suffisante d'observer des choses variées dans les classes. La deuxième contrainte, c'est de mettre en œuvre des analyses qu'on appelle multiniveaux, des modélisations multivariées, qui permettent de raisonner toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire de démêler les effets de tous les facteurs qui sont présentés dans le schéma. Beaucoup de facteurs qui interviennent dans les progressions des élèves. Ces facteurs, pour la plupart, sont liés entre eux et il faut qu'on arrive à tirer les fils, à démêler un petit peu tout ça pour isoler vraiment les effets des pratiques des enseignants. Dernière contrainte liée aux deux précédentes, c'est qu'il fallait qu'on travaille sur un très grand échantillon. Donc, on l'a dit rapidement tout à l'heure, 2507 élèves et 131 classes. Donc, je vous présente rapidement les caractéristiques de cet échantillon. Alors, proportion équivalente de filles et de garçons pour les élèves. Nous avons une majorité d'élèves qui parlent français, d'autres qui parlent français et une autre langue à la maison, et d'autres qui parlent qu'une autre langue à la maison. Donc nous avons retenu ce critère aussi, puisque certains travaux nous disent que cela peut jouer sur les performances. 3,5% de nos élèves sont en retard au CP. On redouble. Sont en retard. Ce qui est un petit peu plus que la situation nationale, on ne s'est pas très éloigné. Et puis, nous avons interrogé les enseignants, les enfants, sur la profession de leurs parents, ce qui nous permet d'indiquer le milieu social. Alors, nous avons donc une distribution au niveau élève, un échantillon qui est assez proche de la situation nationale, même si la comparaison est parfois malaisée, puisqu'en fait, nous n'avons pas de données statistiques sur les élèves, et en particulier leur milieu social, à ce niveau de la scolarité. Quand on regarde les données qui sont dans les niveaux ultérieurs, nous ne sommes pas très loin. Pour ce qui concerne les classes de notre échantillon, environ 30% sont situées en éducation prioritaire. Alors, c'est un petit peu plus que la situation nationale, parce que dans notre projet initial, nous avions clairement le souci d'examiner les effets des pratiques des enseignants auprès des élèves qui présentent, qui sont susceptibles d'afficher des performances un peu plus faibles que la moyenne. La taille des classes est assez proche aussi de la situation nationale. Alors, je vais passer la parole à Roland Guagou, qui, lui, va vous présenter plus longuement notre échantillon d'enseignants. Je peux laisser
ça. Oui, oui. Donc, diversité géographique, on l'a dit tout à l'heure, diversité sociale, diversité d'itinéraire, et 131 maîtres qui nous accueillent donc aux quatre coins de France. La question de recherche, on peut en rajouter un petit élément. On voulait cerner ce qui, dans les pratiques pédagogiques, pouvait influencer les apprentissages des élèves, notamment à travers les choix didactiques, les choix, non pas de méthode, vous allez voir pourquoi on ne va pas utiliser ces termes, mais en tout cas, les grandes options qui caractérisaient une planification, des choix de textes support, des choix d'exercices, vraiment les choix techniques. Les choix techniques et méthodologiques nous intéressaient. Et pour pouvoir comparer des choix techniques et méthodologiques, nous avons choisi de le faire auprès de maîtres qui, d'une part, faisaient des choix différents, mais qui le faisaient en toute connaissance de cause, qui le faisaient de manière réfléchie. On ne voulait pas aller vérifier que des maîtres débutants, maladroits, faisaient ce que leur imposait le manuel qu'ils trouvaient dans la classe le jour où ils arrivaient. On voulait que ce soit des gens qui puissent soutenir leur pratique de manière à ce que les contrastes soient vraiment du côté des choix techniques et pas du côté d'une certaine inexpérience. Du coup, nous nous sommes donné une contrainte, c'est de ne pas prendre dans notre échantillon des maîtres qui n'auraient pas au moins 3 ans d'expérience au cours préparatoire. Ce qui va expliquer justement l'intérêt de cette recherche, c'est d'aller dans cette finesse-là des choix techniques par des maîtres qui sont déjà suffisamment expérimentés. Ils ont en moyenne 17 ans de métier et ils ont en moyenne plus de 8 ans au seul cours préparatoire. Minimum 3 ans, mais en moyenne 8 ans. Donc ce sont bien des maîtres chevronnés de cours préparatoire dont nous allons parler toute la journée, et c'est très important parce que sinon, il y a une partie des résultats qui sont interprétés de travers, notamment quand on tire des conséquences trop hâtives vers un débutant, par exemple, où les questions ne se poseraient pas dans les mêmes termes. Là aussi, on a un échantillon qui est assez proche des données statistiques moyennes nationales. Un peu plus féminisé, notre échantillon, que la situation nationale, peut-être parce que les femmes sont un peu plus courageuses devant une caméra vidéo, je ne sais pas, enfin bon, ça c'est... Et un peu plus représenté avec des maîtres qui ont une expérience de formateur, soit de maître formateur, soit de maître d'accueil temporaire. Ben, on imagine, hein, s'ils ont 8 ans d'expérience au CP, vous savez bien, collègue IEN, que vous allez leur demander d'accueillir nos débutants au cours préparatoire, donc c'est normal qu'on les retrouve ici, aussi dans notre échantillon. Si je résume, on a donc des enseignants qui acceptent qu'on rentre dans leur classe, qui acceptent d'être filmés, qui n'ont pas de problème d'autorité. Nous l'avons vérifié de visu, mais on pouvait penser que déjà, s'ils acceptaient qu'on vienne, c'est parce qu'ils n'étaient pas chahutés, on va dire. Qui sont donc expérimentés, et nous avons aussi fait passer un test pour voir où en était leur sentiment d'auto-efficacité. Il est assez bon, même si tous déclarent des faiblesses du côté de la différenciation et de l'aide aux élèves en difficulté. Et de manière générale, des collègues qui avaient des convictions, mais qui avaient des interrogations et des doutes. Ils font un certain nombre de choses qu'ils réfléchissent, mais ils ne sont pas absolument persuadés que ce qu'ils font est absolument parfait. Et justement, la plupart, et c'est ce qui les réunissait, étaient un peu curieux de savoir ce que produisaient leurs efforts. Simplement, et c'était donc un autre élément de la construction, c'est le choix de la diversité que Céline rappelait à l'instant. Nous nous sommes assurés qu'il y avait une suffisamment grande diversité dans leurs options pédagogiques pour pouvoir aller dans cette logique de comparaison et identifier des différences et des similitudes, notamment chez ceux qui vont s'avérer être les plus efficaces, entre guillemets, auprès de nos élèves. Une manière de voir cette chose-là, c'est de repérer, c'est qu'un exemple, mais un exemple qui est déjà révélateur de cette diversité, 40 classes, 40 maîtres, n'utilisent pas de manuel. Sur la colonne de gauche, vous avez une typologie de la variable que nous allons utiliser tout à l'heure, variable manuelle, en 6 rubriques. Et dans la colonne de droite, ces 6 rubriques ont été regroupées de manière à ce qu'on n'en garde que 3. Donc, 100 manuels, 40 classes. 66 maîtres, donc à peu près la moitié de l'échantillon, utilisent des manuels que nous avons qualifiés d'intégratifs en considérant que cette approche intégrative, c'est une approche qui articulait étude explicite des correspondances graphophonologiques, étude du code, la production de textes et l'écriture, la compréhension de textes, l'accès à la culture. C'est en tout cas ce que ces manuels indiquent dans le guide du maître comme l'ambition de tenir simultanément ces différentes dimensions, la plupart du temps en prenant appui sur de la littérature de jeunesse, soit avec des albums en dehors, soit avec des extraits de littérature de jeunesse intégrés dans les manuels. Toutes sortes de combinaisons sont possibles. Ces approches intégratives, donc, qui représentent 50% de notre échantillon, ont été dissociés à un moment donné, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait deux manuels qui étaient plus fréquemment représentés à l'école des albums et Ribambelle. Donc on a fait un zoom à un moment donné sur ce que font les maîtres qui utilisent le même manuel. Au passage, le résultat, je vous le donne tout de suite, ils font des choses extrêmement différentes. L'idée que quand vous connaîtriez le nom du manuel, vous auriez une idée de ce qui se passe dans la classe est à peu près fausse. Il y a autant de différences entre deux classes qui utilisent le même manuel qu'il y a de ressemblances entre deux classes qui présentent au fronton de leur pédagogie des choses contrastées et qui en réalité vont énormément se ressembler quand on sera dans l'analyse des pratiques effectives et pas des déclarations d'intention. Troisième rubrique, la rubrique des manuels que nous avons appelée centrée sur le code. Et là, il y a clairement deux entrées, une entrée plutôt par l'entrée phonique. On étudie les sons et on va vers les lettres. C'est des GAFI et autres manuels de ce type. Il y en a 12. Et des approches syllabiques, où là, on va clairement partir des graphèmes pour aller vers leur transcription, leur valeur sonore. Ce sont les approches syllabiques classiques. 25 classes, donc 10% de manuels syllabiques, ce qui est plus que ce que l'enquête de Dovio, par exemple, avait montré comme présence de ce genre de manuel sur le territoire parisien, une enquête sur 250 classes parisiennes qui montrait que le pourcentage était plus faible. Donc, la diversité dont on parle, si on prend ce premier critère, ça n'en est qu'un parmi bien d'autres, est effective dans la diversité des supports et des choix, on va dire, de manuels que les maîtres opèrent. Évidemment, une des questions, c'est est-ce que, par exemple, comme on l'a beaucoup entendu, les maîtres qui travaillent sans manuel sont moins performants ou plus performants que les autres. Réponse un peu plus tard. Pourquoi n'avons-nous pas retenu la variable méthode? Parce qu'effectivement, on savait très bien, et la littérature scientifique l'atteste, que c'est une variable qui est trop grossière, trop approximative, très mal définie. Je vais prendre un exemple. Suite à la conférence de presse que nous avons donnée la semaine dernière, le quotidien Le Monde fait un petit encadré, explique cette recherche avec plus ou moins de précision et redéfinit de manière très consensuelle sur le plan médiatique ces trois termes. Une méthode syllabique, c'est quelque chose qui est fondé sur le décodage des signes alphabétiques. On passe des lettres au son, BA, BA. Une méthode globale, c'est basé sur une reconnaissance visuelle, comme des images, des mots photographiés, écrit Le Monde. Et les méthodes mixtes, c'est tout le reste entre les deux. Si ces définitions étaient valides, si on construisait par exemple des polémiques sur l'espace public avec ces définitions, alors on pourrait tout de suite donner les résultats. Méthode globale ainsi définie, zéro. On n'en a pas trouvé, on en a cherché, on n'en a pas trouvé. Dans notre étude, les 131 maîtres, à un moment ou à un autre, dès le début de l'année, plus ou moins vite, vous allez avoir énormément de détails tout à l'heure là-dessus, enseignent explicitement les correspondances entre les lettres et les sons. Donc, cette reconnaissance globale telle qu'elle est ici définie, il n'y en a pas. La syllabique, si on la définit comme un enseignement explicite des lettres et des sons, alors c'est toutes nos classes. Ils sont tous syllabistes, puisqu'ils enseignent tous les correspondances. Maintenant, vous savez, les nouvelles méthodes, c'est des méthodes qui enseignent, enfin, les correspondances entre les lettres et les sons. Il faut arrêter ces bêtises. Tous les maîtres enseignent les correspondances entre les lettres et les sons. Voilà. Peut-être il en reste, allez, 1% quelque part, mais on ne les a pas trouvés. OK. Donc, forcément, c'est trop grossier, c'est trop rudimentaire. On ne va rien faire avec ça. si ce n'est faire couler un peu d'encre. Notamment parce que cette approche, en fait, elle met l'accent que sur une seule dimension qui a à voir avec la question de l'identification des mots. Mais la question de l'identification des mots, il suffit de lire les programmes qui ont force de loi, ça n'est qu'une partie de l'enseignement, de la lecture et de l'écriture. On ne peut pas réduire une question méthodologique à une partie du programme, bien sûr que non. Un des débats, qui est un débat scientifique, lui, un peu plus sérieux, et qui est un vrai débat de professionnels, c'est de savoir si, entre ces différentes facettes, on peut les mener de front, dans une simultanéité, ou si on a plutôt intérêt à les mener dans une certaine successivité, avec une gradation dans les dosages entre les différentes dimensions. C'est une de nos questions de recherche. Celle-là, on va la prendre très au sérieux, mais vous voyez bien que la notion de méthode ne nous aide pas à poser cette question-là de manière très claire. Notamment parce qu'on passe à côté de ce qui fait clivage dans les définitions de méthode aujourd'hui, c'est qu'on considère que la mémorisation de mots entiers serait, on va dire, le point de rupture principal. Or, nous, dans les classes que nous avons observées, donc je donne déjà un résultat en même temps que je présente la diversité de l'échantillon, on peut dire que l'immense majorité des enseignants font déchiffrer à leurs élèves, dans les premières semaines de l'année de cours préparatoire, des mots entiers. Ils les font lire, ces mots entiers, alors même que les enfants ne savent pas les déchiffrer. Par exemple, le mot « dent » est dans beaucoup de classes, parce que, évidemment, cette préposition elle va servir à articuler la syntaxe de nombreuses phrases, avant même que les enfants aient appris que « a plus n », ça faisait « en ». « A plus n » égale « en », ça sera enseigné, mais ça sera enseigné un peu plus tard. Le maître a besoin, au début de l'année, de quelques mots, qu'il appelle souvent des mots « outils », d'ailleurs, qui est un des termes fréquemment utilisé. Donc, cette activité existe, et alors qu'elle est stigmatisée par les tenants d'une approche syllabique pure et dure, qui disent « ça, c'est une horreur, on n'a pas le droit de donner à lire à des enfants des mots dont on n'a pas appris à transcrire tous les graphèmes en phonèmes ». La réalité, c'est que dans les classes, les maîtres le font, peu ou prou, on a le chiffre. Combien de temps y passe-t-il par semaine, en moyenne, dans notre échantillon ? 11 minutes. Il n'y a pas de quoi affoler la population française. Et notamment parce que dans beaucoup de classes, on a pu observer que cette mémorisation des mots, elle se fait lettre à lettre. Donc, c'est DANS. D'ailleurs, une des activités de mémorisation, c'est de la copier, de le copier, ce mot, de le recopier ou de le mémoriser dans une dictée du jour. Donc forcément, vous voyez bien que le regard, il n'est pas du tout global, puisqu'il y a une analyse lettre à lettre. Donc il ne faut pas confondre le fait qu'il n'y ait pas un enseignement explicite là du graphème AN avec le fait que ça soit une reconnaissance visuelle, comme on traiterait un logo. Pas du tout. Dans ce cas-là, d'ailleurs, depuis la circulaire d'Eurobien de 2006, moi je ne fais que citer nos ministres, on parle de mémorisation orthographique et c'est même recommandé par les circulaires, même de celle de M. d'Eurobien. Une approche syllabique pure, elle, prétend exclure totalement cette chose-là. C'est peut-être même la seule véritable différence qui marquerait une syllabique pure. Mais il y a un peu loin de la théorie à la pratique, parce que dans notre étude, les 13 classes dans lesquelles il y a des méthodes syllabiques, on en a trouvé plein de maîtres qui ont besoin de quelques mots-outils et qui les introduisent avant d'avoir enseigné les correspondances graphèmes-phonèmes. Mais il faut leur rendre justice, ce sont bien les maîtres qui ont le plus grand soin à donner à leurs élèves des textes qui soient déchiffrables le plus possible. Et nous allons détailler ça dans la communication qui va suivre. Donc, des interrogations sur les choix de support, oui, certainement. Des interrogations qui, faisant exploser la variable trop grossière méthode, vont nous amener à critérier ce qui fait la différence sur toute une série de sous-questions. C'est quasiment le programme de la journée. Une réflexion sur les textes supports, sur la planification de l'étude du code, sur les pratiques d'acculturation, sur l'enseignement de la compréhension, sur l'enseignement de l'écriture, sur les interactions lecture-écriture, sur la production de textes. Si vous voulez rendre compte des pratiques des maîtres, il faut rendre compte simultanément sur cet ensemble de dimensions. Et c'est la manière d'agencer ces différentes dimensions qui, finalement, va faire la différence. Donc, pas une opposition binaire de méthode, un continuum de pratique. Dit autrement, on peut dire que sur le plan scientifique, quand on cherche des causalités, quand on cherche des effets, on a un paradigme qui, évidemment, est le paradigme dominant sur le plan international, qui est un paradigme expérimental. Vous donnez un outil à des maîtres, vous ne donnez pas d'outils à d'autres, et vous comparez la supériorité d'une approche par rapport à une autre approche. Il n'y a qu'une étude digne de ce nom qui a été conduite en France dans cette approche expérimentale, c'est l'étude de Jantaz et Springer-Charol en 2011, dans cette académie d'ailleurs, dont les résultats avaient été, il n'y a pas de différence entre le groupe témoin et le groupe expérimental. Mais au moins, ils ont fait le boulot dans toute la rigueur, et nous collaborons avec ces collègues, et nous avons repris une partie de leurs outils d'évaluation des élèves pour justement pouvoir comparer, et vous verrez que nos deux études viennent se compléter. Même si vous l'avez compris, nous avons fait un autre choix. Au lieu de provoquer un changement par l'expérimentation, nous avons considéré que les pratiques ordinaires allaient se dérouler, que nous allions les observer, que nous allions apprendre de la diversité, disait Céline tout à l'heure, et que faire la classe, c'est en fait procéder à de nombreux réglages, de nombreux choix dans de nombreuses dimensions, métaphoriquement, c'est cet outil qui sert à fabriquer du son en réglant toutes sortes de boutons, et évidemment, il y a plusieurs manières, ça c'est déjà le résultat final de la journée, d'obtenir un son de belle qualité. Certains curseurs, quand ils sont mal réglés, donnent du larcène et clairement pénalisent les élèves, mais il y a vraiment plusieurs agencements qui vont s'avérer efficaces. Des agencements qui nous allons décrire avec toutes sortes d'indicateurs concernant l'étude du code, la compréhension de texte, l'écriture, l'étude de la langue, l'acculturation, la lecture haute voix, mais aussi des considérations pédagogiques plus générales sur l'engagement des élèves et le climat des classes, le degré d'explicitation de l'enseignement, la différenciation. Voilà le programme de la journée. En d'autres termes, c'est cette finesse dans les pratiques qui nous intéressait de maîtriser. Sur le plan technique, une méthodologie donc complexe, originale, basée sur des observations, je l'ai dit, 3 semaines complètes, une par trimestre, dans chaque classe. Ce que nous avons observé essentiellement, ce sont les tâches proposées aux élèves, ce que les maîtres demandent à leurs élèves de faire. Autrement dit, on s'est intéressé à l'offre d'enseignement, à ce que le maître, lorsqu'il disait « lisez », silencieusement, c'était une tâche. Qu'est-ce que vous avez compris ? C'était une autre tâche. Relisez à haute voix, c'était une troisième tâche. Donc vous voyez que ce sont les séances qui sont découpées en petits morceaux chaque fois que l'activité intellectuelle des élèves est sollicitée dans un autre registre, on change de tâche. Et nous avons donc procédé à cet inventaire des tâches et nous avons procédé à des calculs sur les durées pour pouvoir rendre compte de l'offre éducative qui est faite à nos enfants, à nos élèves, avec... Au final, puisque maintenant on a bouclé et on peut calculer, une durée moyenne des tâches qui est de l'ordre de 5 minutes. Ce qui est relativement exceptionnel parce que, vous voyez, pour une étude sur les pratiques, on ne s'intéresse pas au fait qu'il y a une leçon qui s'appelle « découverte de texte ». Parce que dans une leçon qui s'appelle « découverte de texte », il y a 12 tâches différentes qui s'emboîtent. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est comment sont construites ces 12 tâches, dans quel ordre et avec quelle intensité. Pour compléter ces observations, en même temps qu'on découpait le temps en tâches successives, on s'intéressait à toute une série de gestes professionnels, d'explicitation ou de mémoire didactique. On regardait quels étaient les supports convoqués. On regardait si les élèves étaient en train de travailler en collectif, en individuel, en petits groupes. Quels étaient les supports décrits. Quelle modalité de différenciation le maître utilisait. Est-ce qu'il y avait un groupe qui travaillait sans lui et quels élèves étaient dans ce groupe. D'autres travaillaient avec lui, etc. Donc tout ça, c'était contrôlé tâche par tâche. Donc avec une unité de 5 minutes, on peut dire, là ils sont en collectif 5 minutes, là ils sont en individuel 3 minutes, là ils sont 12 minutes. Voilà, c'est notre grain d'analyse. Et enfin, des éléments sur le climat et l'engagement des élèves, ça sera la dernière communication de la journée, je ne veux pas la déflorer. Pour faire ça, il nous fallait une typologie, c'est une typologie en 31 tâches, qui est un bel outil d'observation de la classe. Plusieurs conseillers pédagogiques s'en servent déjà pour renvoyer des images à des collègues, que nous avons regroupé en 5 grands blocs. Phonographie, c'est toute l'étude du code à proprement parler, la phonologie pure, mais aussi l'étude des correspondances entre les lettres et les sons. Côté lecture, on a regroupé à la fois des éléments de lecture silencieuse, du déchiffrage de mots et la lecture à haute voix. En écriture, ça va de la calligraphie à la production de texte en passant par la copie. En compréhension, il y a toutes les tâches qui seront présentées tout à l'heure. En étude de la langue, 3 volets aussi. Je ne détaille pas, tout ça c'est l'objet de la journée. Mes collègues vont vous rentrer dans le détail. Communication après communication. Nous avons complété ça par des relevés de traces. On a photographié, c'est sur notre site, 2 élèves, les cahiers de 2 élèves toutes les semaines. On a une base de données textuelle énorme sur ce qu'écrivent les enfants de cours préparatoires semaine après semaine. On a les affichages et puis on a posé des questions au maître pour compléter les informations qui n'étaient pas identifiables par la simple observation pour les choses qui se passaient entre nos visites. Voilà. Une présentation méthodologique de cette recherche est déjà disponible dans la revue Recherche en didactique de l'Université de Lille, les cahiers Théodile. Donc, deuxième partie, quelques résultats sur l'évaluation. Donc, les premiers résultats, maintenant vous voyez bien la méthode et ce qui vous attend dans la journée. Donc, cette évaluation finale, c'était le cœur du schéma de Céline tout à l'heure, donc repose sur une évaluation en bloc. Sur le code, nous avons évalué de la phonologie, de la lecture de mots familiers et de pseudo-mots et une épreuve de fluence, donc des épreuves que nos collègues nous ont prêtées, si vous voulez, et qui sont des épreuves étalonnées. Sur la compréhension, on a utilisé le test ECOS de la compréhension de phrases, mais nous avons créé 2 tests originaux pour tester la compréhension de textes entendus par les enfants, nous y reviendrons, des textes qu'on leur lit, et puis des textes qu'ils lisent eux-mêmes, textes lus. Et enfin, en écriture, là aussi, nos collègues détailleront 3 créations originales du groupe de recherche. Sur toutes ces épreuves, on a les performances, les distributions. Vous lirez ça dans le rapport, on ne peut pas le détailler aujourd'hui. Je donne juste un exemple pour vous montrer que décile par décile, c'est-à-dire qu'on a pris nos 2500 élèves, on les a coupés en tranches de 250, donc chaque bâton représente 250 élèves, et on regarde épreuve par épreuve le niveau des 250 les plus faibles, puis les 250 suivants, jusqu'à droite, les 250 les plus forts, sur cette épreuve-là. Donc vous voyez que sur cette épreuve-là, lecture de pseudo-mots et de mots familiers à la fin du CP, l'immense majorité de nos élèves ont des scores qui dépassent les 60 points sur 75, mais qu'en fin de CP, oui, il y a bien un certain nombre d'élèves qui ont une moyenne de 17-18 points, là, vous voyez, ça veut dire que ces élèves-là, ils ne maîtrisent pas, clairement, le déchiffrage des mots. La question, c'est de savoir ce qu'ils vont devenir dans le début du CE1 et la fin du CE1. Là aussi, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on identifie ces disparités dans les niveaux de performance à la fin de l'année de CP. Et là, on arrive au cœur, peut-être, premier cœur de nos résultats. Céline, je te repasse la parole directement.
Merci. Alors, premier résultat d'ordre général, quel est l'influence du maître, de l'enseignant, dans l'explication des performances des élèves. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu à quoi renvoient ces différents pourcentages. Je ne vais vous parler pour le moment que du score global, et puis je repasserai la parole à Roland pour quelques détails ensuite. Je vais vous expliquer ce tableau de gauche à droite. Un premier résultat, c'est que nous estimons que les performances des élèves à la fin du cours préparatoire s'expliquent pour un peu plus de la moitié par leur performance en début d'année. Alors, je vais le reformuler autrement et peut-être un peu plus précisément. La moitié des écarts qu'on observe à la fin de l'année entre nos élèves de cours préparatoire ne réussissent pas tous de la même façon. On observe des écarts à la fin de l'année. La moitié de ces écarts s'explique par des écarts qui étaient déjà présents au début du cours préparatoire. Et donc là, la pédagogie du maître n'a rien à y voir. Deuxième colonne, alors CSD, ça veut dire caractéristiques sociodémographiques. Les caractéristiques sociodémographiques, lorsque l'on contrôle l'effet du niveau initial, expliquent 5% des différences de performance en fin d'année. Alors, à nouveau, une autre formulation, plus claire peut-être, serait de dire que les écarts qui se construisent tout au long du CP, le fait que les élèves n'apprennent pas tous au même rythme, donc les écarts qui se construisent au cours de l'année de cours préparatoire, sont dus à hauteur de 5% par les caractéristiques sociodémographiques des élèves et en particulier leur milieu social. Alors, ce 5%, ça peut sembler faible, presque contre-intuitif pour les acteurs du monde scolaire. Donc, je souhaite souligner à nouveau que nous cherchons à expliquer ce qui se passe en cours d'année, vraiment sur ce qui se construit pendant l'année de CP. En fait, l'effet des caractéristiques sociodémographiques, tel qu'on peut l'appréhender au quotidien dans nos classes, nous paraît, quand on est enseignant, un peu plus élevé, mais en fait, c'est parce qu'il se cumule d'année en année. Par exemple, on sait que tous les ans, les enfants des milieux sociaux les plus favorisés vont avoir tendance à progresser un peu plus rapidement que des enfants de milieux moins favorisés. Ce qui aboutit en fin de parcours à des différences assez sensibles en fonction des milieux sociaux, bien sûr. Mais si on restreint l'analyse à uniquement ce qui se passe pendant l'année scolaire, l'influence des caractéristiques sociodémographiques, donc du milieu social, notamment du milieu social, est assez faible, et en tout cas, elle est plus faible que ce qu'on appelle l'effet classe, donc, qui lui se situe, troisième colonne, aux alentours de 8%. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, le maître a plus d'influence que la famille. Bon. Alors, 8%, c'est un résultat assez proche des travaux obtenus par ailleurs, des travaux antérieurs, même si c'est un tout petit peu plus faible, au cours préparatoire, selon les travaux, on est plutôt entre 10 et 15%, 10, 12 peut-être même. Bon, nous, on est un petit peu en dessous, mais ça s'explique sans doute par les caractéristiques de notre échantillon que Roland vient de vous présenter. Et on peut supposer que les choix techniques des enseignants vont peser un peu moins dans notre échantillon que par rapport à d'autres enquêtes, dès lors que nos enseignants sont des enseignants expérimentés. Dit autrement, si on avait eu des débutants, par exemple, dans notre échantillon, sans doute que l'influence du maître, l'effet maître, aurait été un petit peu plus fort. Donc, tout ce qui va se passer dans la journée va consister à décortiquer ce 8%. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui fait que 8% des écarts de progression entre élèves s'expliquent par les enseignants? Donc, je vais repasser la parole à Roland. Je dévoile. Qui va distinguer dans ce score global ce qui se passe en code, en compréhension et en écriture.
53% de la variance s'explique par le niveau initial. Ça situe aussi la responsabilité de l'école maternelle. C'est qu'est-ce qui s'est passé avant qui fait que les élèves apprennent plus ou moins bien. Là, le commentaire, c'est simplement un commentaire, puis peut-être qu'il faut qu'on accélère un tout petit peu, sur le fait que quand on regarde ce 8%, en réalité, selon le bloc de compétences, il ne se distribue pas pareil. 11%, ça veut dire que l'influence de la pédagogie est plus forte en écriture. Les pratiques pédagogiques des maîtres de CP vont influencer plus fortement les progrès des élèves. En revanche, 4,9% dans le domaine de la compréhension, ça veut dire que c'est le domaine pour lequel la pédagogie, finalement, est la moins efficiente, celle pour laquelle elle change moins le cours des choses et celle pour laquelle le niveau initial, finalement, pèse le plus. Et ça, c'est vraiment une de nos questions. Vous allez voir, elle va servir de fil conducteur à plusieurs communications. C'est pourquoi, au fond, cette pédagogie du cours préparatoire a-t-elle un effet si faible sur la qualité de la compréhension des élèves à la fin du cours préparatoire? Qu'est-ce qui permet d'arriver à ce résultat qui est un des résultats forts de notre étude? Deux hypothèses. À la fois, ce sont des compétences qui sont socialement marquées, très marquées, parce qu'il y a des connaissances culturelles, des connaissances de vocabulaire, de maîtrise de la langue, etc. Et le poids social est tellement fort que l'intervention pédagogique, du coup, est moindre, ou qu'en tout cas, c'est difficile de compenser par l'intervention pédagogique. Et une deuxième hypothèse, les deux ne s'excluant pas évidemment, ce sont des compétences qui, au fond, sont moins la cible de l'enseignement, ce sont des compétences qui sont moins travaillées, beaucoup moins travaillées que l'écriture, et vous allez voir que cette hypothèse va être largement validée par toute une série de résultats. Pourquoi à creuser? Nos collègues nous donneront des explications. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas une priorité pour les enseignants? Est-ce qu'il s'agit d'une absence d'outils adéquats pour ce travail-là? La question est posée. Alors, on va parcourir très rapidement quelques résultats avant de conclure et de passer la parole à aux intervenants suivants. On a relevé le temps de travail, l'offre éducative, je disais, offerte aux élèves. La moyenne, le résultat est important, 7h22 minutes. 7h22 minutes avec un écart type d'une heure 32. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les cours préparatoires que nous avons étudiés, les élèves disposent d'un temps de travail consacré au lire-écrire de 7h22 minutes. Nous avons décompté tous les temps morts. Temps mort quand on insérait autre chose que du lire-écrire dans une séance. Temps mort lorsqu'on s'arrêtait pour coller les photocopies qu'on venait de découper. Temps mort lorsqu'on s'interrompait parce que la personnelle de cantine venait faire l'appel pour savoir qui mange à midi. Temps mort, on enlevait. Donc 7h20 minutes, c'est ce qui reste réellement disponible comme temps d'enseignement. Avec une moyenne 7h22, vous avez vu 40 classes sont dans la fourchette 7 à 8 heures, mais vous voyez qu'aux deux extrêmes, des classes consacrent plus de 9 heures temps effectif, hein, ce qui veut dire que quand vous ne décomptez pas les temps morts, vous voyez, ça fait un temps très conséquent, plus de 9 heures et d'autres moins de 6 heures. Donc, une de nos questions, c'était, y a-t-il un effet linéaire? En gros, plus on enseigne, mieux les élèves apprennent. La réponse est non, pas d'effet linéaire. La quantité, à cette échelle-là, ne nous dit rien, ne suffit pas à qualifier la qualité de l'enseignement. Évidemment, c'est qu'il va falloir affiner ce qui est fait de ce temps de travail. Alors, on a des chiffres qui seront présentés par les différents collègues qui répartissent les 5 grands blocs de tâches que je vous ai indiqués tout à l'heure. Je ferai juste un commentaire. C'est si on additionne ce qui est consacré aux aspects phonographiques, avec le déchiffrage de mots, la tâche L3 de tout à l'heure, la lecture à haute voix, la tâche L4, et les activités d'encodage, donc d'écriture, où on passe de ce qu'on entend à ce qu'on peut retranscrire, on obtient dans notre échantillon une durée hebdomadaire d'étude du code égale à 3h08 minutes. Donc si vous entendez dire autour de vous que dans les CP français, on n'enseigne pas le code, vous dites que ce sont des menteurs. 3h08 minutes en moyenne par semaine sur ces 7h22. Avec, là aussi, une énorme diversité, bloc de tâches par bloc de tâches. Ici, j'ai pris juste la phonographie. On voit que dans certaines classes, il y a seulement 30 minutes, et dans d'autres, il y en a 2h14. Alors, évidemment, quand je dis d'autres, c'est pareil, ce sont des déciles, 10% des classes. Ici, un bâton, c'est 13 classes. Le bâton d'après, c'est les 13 classes suivantes, depuis celles qui ont fait le moins jusqu'à celles qui ont fait le plus. Donc, d'importantes disparités qui auront des effets. Nous allons voir ça toute la journée. Une assez forte stabilité entre les différentes semaines de l'année. Les trois couleurs, semaine 47, c'est le premier trimestre, rouge, deuxième trimestre, vert, troisième trimestre. Les trois grands blocs de tâches de tout à l'heure, phonographie, lecture, étude de la langue, vous voyez qu'il y a une baisse en phonographie et une augmentation en compréhension, que les collègues commenteront, mais que globalement, et ça c'est un constat très général, quand vous avez vu la classe au premier trimestre et au deuxième trimestre, vous savez la classe qui vous attend en tant qu'observateur au troisième trimestre. C'est-à-dire qu'il y a une grande stabilité, grande régularité dans les modes d'organisation, dans les gestions des temps, et qu'on va pouvoir voir y compris dans le détail des tâches. Un mot sur ce que j'ai dit un peu trop vite et qui mérite une précision.
Quelques petites précisions. Donc, Roland vient de vous dire que on n'a pas d'effet linéaire moyen de la variable globale du temps de lire-écrire. Alors, qu'on vous précise un tout petit peu ce qu'est un effet linéaire moyen. Donc, je l'ai représenté graphiquement. Un effet linéaire moyen donne l'idée qu'il y aurait une relation stable, presque proportionnelle, entre une durée, le temps consacré au lire-écrire, et l'effet de cette durée. Et moyen parce qu'il concernerait aussi l'ensemble des élèves, peu importe leurs caractéristiques. Ce type d'effet, quand on le met en évidence, nous conduit à penser que plus on en fait, mieux c'est. Bon. Pour tout le monde. Bon. Les choses ne sont malheureusement pas si simples. Et on peut imaginer que nous n'avons pas d'effet linéaire moyen parce qu'on aurait des effets qui ne s'observeraient qu'auprès de certaines catégories d'élèves, les plus faibles ou les meilleurs. Bon. Donc nos analyses vont chercher à distinguer les effets de nos indicateurs, de nos variables, en fonction très souvent du niveau de performance initiale des élèves. Alors classiquement dans la recherche, on peut partitionner nos élèves en plusieurs catégories, mais ce qu'on va appeler les plus faibles sont souvent ceux qui se situent, les 15%, pour le dire vite, les 15% les plus faibles de l'ensemble de nos 2507 élèves. Deuxième nuance, si nous n'avons pas d'effet linéaire moyen, c'est peut-être parce que nous aurions des relations d'une autre forme, un petit peu plus complexes. Premier exemple, on pourrait penser que certains de nos critères n'exercent des effets qu'à partir d'un certain moment, c'est-à-dire qu'il faut en faire suffisamment et qu'à partir d'un certain seuil, là, on commencerait à observer des effets. Autre exemple de relation, à l'inverse, on pourrait avoir des effets pendant un certain temps et puis au-delà d'un certain seuil, ça ne sert pas à grand-chose d'en faire beaucoup plus. On observe, alors là j'aurais pu faire une courbe plus plate, mais, ou pas. Troisième type de relation, c'est presque un peu caricatural, c'est dans un discours un peu pédagogique. On peut imaginer que certaines variables aient un effet croissant au début, voilà, plus on en fait mieux c'est, et puis au bout d'un moment, la courbe redescend et on aurait des effets négatifs. Là, on peut imaginer que, à partir d'un certain temps, si on continue à proposer du temps de lecture, du temps d'écriture, ça rentre en concurrence avec d'autres activités. Le fait de faire quelque chose implique qu'on renonce à autre chose. Et c'est ce renoncement qui aurait des effets négatifs. Voilà. On conclut vite.
On conclut vite. On a profité du fait d'avoir commencé 5 minutes en avance pour voler 5 minutes, mais on va tenir le tempo. Vous avez compris, voilà, c'était notre journée, c'est notre méthodologie générale, c'est ce qui vous attend. Donc, vous avez compris aussi qu'on ne va pas vous proposer un modèle efficace, un modèle du maître efficace. On n'a pas de nouveau maître étalon à déposer au pavillon de Breteuil. C'est bien clair. Parmi les maîtres les plus efficaces, on en a qui utilisent des méthodes très centrées sur le code, d'autres qui n'ont pas de manuel, d'autres qui ont des manuels intégratifs. Avec ça comme entrée, vous ne trouverez pas la réponse. Ils font des choix contrastés et ils sont également efficaces. Ce qui nous conduit quand même à aller voir si, et là on a déjà la réponse, oui, ils combinent bien les mêmes ingrédients. Il n'y en a pas qui réussissent à faire de la mayonnaise sans mettre des œufs, ça c'est sûr. Mais leurs manières de les combiner sont relativement variables et peuvent produire des effets également positifs. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir dans toutes ces dimensions que j'ai déjà listées, celles qui apparaissent les plus saillantes, celles qui apparaissent les plus récurrentes, celles qui apparaissent peut-être les plus partagées du côté des pratiques les plus efficaces. Et de l'autre côté, Vous voyez, chercher des traits communs à ces maîtres les plus efficaces, c'est de s'apercevoir s'ils partagent les mêmes priorités et si, notamment, ils évitent les mêmes écueils. Et donc, une partie de la journée sera sur ce thème-là. Quelles caractéristiques positives, mais quelles caractéristiques aussi qui nous permettraient peut-être de mettre en alerte des enseignants, des formateurs, sur un certain nombre de choix qui pourraient freiner les progrès d'élèves et en particulier des élèves les plus fragiles. Voilà. Merci de votre attention pour la première communication.